chronique LNH avec Antoine Roussel. Antoine, avant qu'on commence, qu'on se lance dans le sujet, la semaine dernière, tu as parlé de ta liste noire et qu'il y avait deux joueurs du Canadien. Et si Monac, que ça a fait jaser, il y a des partisans du Canadien qui est en Moses de calvaire après toi là-dessus. Mais là, il faut comprendre des choses là-dedans. Là. C'est liste noire en souriant. Là. C'est pas une vraie de vraie liste noire. Là. Oh.
Écoute, Marc, moi, ça me fait excessivement rire. Là. Tu sais, que mes beaux-frères m'ont appelé pour me dire que ça avait brassé un petit peu. Puis je trouve ça drôle. En même temps, ça fait partie aussi du folklore du hockey. C'est sûr que ma terminologie n'a pas été excessivement bonne. J'aurais pu juste dire qu'il y avait des joueurs que j'appréciais pas forcément dans chaque équipe. Puis ben, c'est sûr qu'on est au Québec, fait que les gens ils se rapprochent puis ils s'identifient plus aux Canadiens. Donc c'était l'équipe à choisir pour dire ça. Ben écoute, moi, dans chaque équipe, j'ai des joueurs que j'apprécie pas et puis l'animosité monte de match en match. Puis ben, c'est ça aussi qui est excitant quand on regarde le hockey, c'est que c'est pas une game plate où il y a pas d'émotion. Tu sais, je pense que les games qui sont en vente, c'est là où il y a le plus d'émotion, où on ressent la rivalité sur la glace. Et puis ben, je pense que c'est juste bon pour le hockey.
Mais aurais-tu aimé ça, Antoine, jouer plus souvent contre Montréal? Parce que, tu sais, Dallas, Vancouver, tu joues contre Montréal, quoi, deux fois par année, gros maximum, là? Aurais-tu aimé ça jouer plus souvent contre Montréal?
ben, écoute, oui, mais j'ai jamais tiré vraiment des bonnes games à Montréal, malheureusement. Là. Même que, je te dirais, ma belle famille ne descend même plus au Centre Bell pour me voir jouer tellement je suis mauvais à chaque fois là-bas. Fait que, ils ont décidé d'arrêter. Ils préfèrent venir me voir à Vancouver. J'étais un peu meilleur. Et puis, même ma mère, elle pense ça aussi. Donc, je te dirais que c'est correct. Là. En même temps, il y a moins de personnes à inviter au Centre Bell.
Hey, Antoine, on va parler de politique un peu parce que, bon, c'est la campagne, il reste une semaine au Canada. Tu as joué à Dallas. Écoute, endroit très, très, très politisé avec l'élection de Trump. Tu étais toujours avec les Stars, sauf erreur à ce moment-là. Est-ce que la politique, ça a une place importante chez certains joueurs de hockey ou pas plus que ça?
Ben, comme tu l'as dit, tu sais, la politique, c'est une certaine place importante pour certains joueurs. C'est un petit peu, tu sais, une équipe de hockey, ben, c'est un petit peu, ça reflète aussi la population. Il y en a qu'ils s'en foutent, puis c'est même pas la peine de leur en parler ou d'aborder le sujet. Puis il y en a qui sont un petit peu plus touchés par ça, puis il y en a qui le sont beaucoup plus. Moi, j'ai déjà joué avec Tim Thomas, puis c'était un gars qui était super politique. C'était quasiment fallait s'abstenir de parler politique autour de lui tellement c'était un gars impliqué qui avait des grosses opinions, mettons qu'il mettait pas beaucoup d'eau dans son vin, hein. Et puis on s'en rappelle aussi, là, tu sais, que lui, après avoir gagné la Coupe Stanley avec Boston, il avait refusé d'aller à la Maison Blanche parce qu'il était en désaccord avec le président actuel, Barack Obama. Donc, tu sais, des fois aussi, faut faire attention avec ça. Moi, je pense toujours que avec la personne en place, mais faut toujours au moins respecter la position. Puis ben ça, c'est un peu ce que Tiger Woods disait. Puis moi, je partage vraiment son opinion par rapport à ça. Là.
Absolument. Au Texas, quand tu évoluais là-bas, sauf erreur, c'est un endroit qui est quand même, je pense, très républicain. Est-ce que la campagne de Trump, ça a été suivi pas mal par les joueurs des Stars à l'époque?
À l'époque, je te dirais que oui. Je me rappelle que, ben, en tout cas, ça, c'est les élections en tant que telles là, qui étaient beaucoup suivies. Ça annonçait beaucoup de changements et tout ça. Et puis, ben, à l'époque, c'était quand même assez prometteur. Là. L'avenir l'a été un petit peu moins, mais c'était vraiment suivi. À un moment donné, pendant un débat, c'était durant une game pré-saison. Puis je me souviens vraiment plus contre qui on jouait parce que la moitié de l'équipe était sur la glace et l'autre moitié était dans une loge à l'aréna. Et puis, ben écoute, qui regardait ce qui se passait sur la glace, tout le monde était assis devant une TV dans la loge pour voir c'est quoi les débats, puis qu'est-ce que Trump allait faire. Et puis, ben c'était excitant ce moment-là parce que tout le monde regardait ça. Et puis, je te dirais que tout le monde se foutait de la game de hockey. Là.
Et maintenant, avec les Canucks, supposons, Antoine, que tu décides que dans le coin où tu habites à Vancouver, que tu décides que tu supportes le candidat X de tel parti, exemple. Mettons que tu mets ça sur ton compte Twitter ou Facebook. Moi, je supporte tel candidat. Est-ce que les Canucks vont dire « Oh, t'as pas d'affaire à faire ça. » Est-ce que vous avez des directives de pas trop vous mêler de politique, les joueurs de hockey?
Ben écoute, je pense que après, jusqu'à présent, nous, on n'a pas eu cette discussion-là avec l'organisation. C'est sûr qu'en même temps, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe, tu sais, qui sont aussi étrangers. Là. On a beaucoup de Suédois, on a des Américains, puis on a aussi beaucoup de Canadiens, mais on n'en a pas énormément. Fait que je pense que le message du 700, il se dirigerait vraiment vers les Canadiens. Puis je pense que par le passé, les joueurs des Canucks, c'était pas forcément des gars qui s'étaient excessivement appliqués en politique. Et puis, ben, je pense que aussi en tant que personne, tu votes à quasiment à huis clos, puis que dans ton isoloir et tout ça. Donc, c'est le fun de parler politique, mais jusqu'à la fin, des fois aussi, c'est le fun de se garder une petite gêne où on est scruté sous la loupe. Puis, ben, ça sert à rien aussi des fois de brasser de l'air, puis de revenir être la cible de partisans qui sont peut-être en désaccord avec nous autres. Mais je sais que pour certaines organisations, c'est vraiment différent. Là. Ils sont plus proches de vous autres que de moi en ce moment. Ouais. Puis ils ont des directives un petit peu plus strictes à ce niveau-là.
Antoine, on va parler d'un autre dossier maintenant. Puis c'est des questions qu'un auditeur m'a envoyées il y a quelques semaines. On va répondre à ça. Côté nationalité au hockey, souvent, on a vu des joueurs, je pense entre autres à Sébastien Bordeleau, qui est un Québécois, mais qui a joué pour la France. Jason Pominville, bon, sa mère est américaine, donc lui va jouer pour Team USA. Toi, tu as les deux nationalités, sauf erreur, Antoine, tu es français et canadien. Comment ça marche? Parce que tu représentes toujours la France dans les compétitions internationales. Là.
Ben écoute, dans mon cas, pour moi, c'est quand même assez différent parce que moi, j'ai grandi, puis j'ai vécu, puis pour l'oreille de beaucoup de Québécois encore, j'ai encore un gros accent. Quand je retourne là-bas, j'ai un gros accent québécois. Alors, je gagne jamais nulle part. Mais dans leur cas, ou dans le cas de la France, parce que c'est un dossier que je connais un peu plus, dans le temps, ben écoute, on avait beaucoup beaucoup moins de profondeur au sein de l'équipe, et puis donc c'est sûr qu'on prenait l'équipe de France choisissait des joueurs qui avaient la citoyenneté française. Ça nous a permis d'être plus compétitifs, puis de développer le sport en France. Puis ben il y a des vieux joueurs qui ont joué là, tu sais, comme ça a toujours été connu pour que la France soit à la place pour des joueurs québécois qui soient plus ou moins vers la fin de carrière. Et donc ces gars-là, ils ont souvent des enfants sur place, puis ben ils obtiennent la citoyenneté par le fait même. Et puis par exemple à Maxime Sauvé ou Charles-Olivier Roussel qui ont la citoyenneté, mais que ils ont jamais pu jouer pour diverses raisons, mais éventuellement ils l'auraient pu. Nous, la fédération, dans le fond, ils ont décidé après un certain temps de changer le règlement en voyant que l'équipe de France devenait de meilleure en meilleure. Et puis ils ont décidé que fallait que chaque joueur qui ait joué en France pendant un certain nombre d'années, et puis comme ça ils s'assuraient que des situations comme Sébastien Bordeleau, ça arrivait pas. C'est sûr qu'il y a des exceptions près, là, comme en ce moment il y a Olivier Dammalka qui a joué pour Batters dans notre temps. Et ben lui est parti en France, il a joué pendant X nombre d'années en France, et puis il avait sa citoyenneté. Ben là, à ce moment-là, ils ont dit bon défenseur, on peut toujours faire ça. Mais en même temps, ça fait partie vraiment de la protection un petit peu des championnats. L'Allemagne protège leur championnat un peu de cette manière-là, nous autres aussi. Il y a des accords en Europe qui font en sorte que n'importe qui peut travailler n'importe où. Il n'y a pas vraiment de frontières comme nous on peut avoir avec les Américains, du fait de l'accord de Schengen dans le temps. Et puis donc on pourrait avoir 10 ou 15 Tchèques qui jouent pour une équipe locale en France. Donc l'équipe de France est par des lois que la fédération en fait. Donc chaque club a un maximum de 10 étrangers, peu importe d'où ils viennent. C'est un maximum de 10. Et puis ben après ça, ça fait en sorte que le hockey français s'est développé. Et puis par de fait même que l'équipe de France s'est développée aussi.
Mais Antoine, est-ce qu'il y a eu un déclic du hockey en France à un certain moment donné?
Ben, c'est sûr que la façon dont je vois les choses, c'est sûr que les Jeux olympiques de 92 à Albertville, ça a vraiment eu un gros déclic. Comme on le disait avant, on avait besoin de beaucoup de joueurs issus du hockey québécois qui n'avaient pas forcément fait leur formation de hockey en France. Mais je te dirais que à partir de cette date-là, écoute, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se sont développés et moi j'en fais partie. Je pense notamment à une génération où Pierre-Édouard Bellemare qui joue au Colorado, Stéphane Dacosta qui a joué un petit peu dans la Ligue nationale, Johan Ovitu qui a joué un petit peu dans la Ligue nationale, mais c'est des gars qui se sont jamais vraiment établis. Puis moi-même, on vient vraiment de boom là où les parents, tu sais, ils cherchaient des activités à faire, puis le hockey, là, ça a été tellement populaire pendant cette période-là en France à l'époque, qu'il y a une construction vraiment de beaucoup, beaucoup de patinoires où il n'y en avait pas vraiment avant là, en France. C'était vraiment dans les Alpes que le hockey était populaire. Et après ce moment-là, ça s'est vraiment répandu à toute la France. Je te dirais pas que c'est populaire comme le Canadien aujourd'hui, mais ça a eu vraiment un effet positif pour les générations qui ont suivi. Puis moi, je fais partie. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à jouer au hockey. Puis j'en conviens que c'est sûr c'est à cause de ça que je joue au hockey.
Supposons qu'Antoine, que demain matin, on me nomme DG d'équipe Canada pour le championnat du monde de hockey. Et je décide que Antoine Roussel, j'aimerais ça l'avoir sur ma troisième, quatrième ligne pour faire un peu de robustesse. Puis je t'appelle. Je te dis, Antoine, je veux que tu viennes jouer pour moi avec Team Canada. Est-ce que tu pourrais le faire?
Ben écoute, Marc, pour moi, pour me faire l'invitation pour l'équipe canadienne, je te qualifierais comme très, très mauvais DG. à ce choix-là se fait quand on est junior et les professionnels, donc les seniors. Et c'est possible de faire le switch entre junior et senior, mais dès qu'on a choisi quelque chose, après ça, c'est fait, on ne peut plus changer.
Ouais. Mais j'imagine que dans ton fort intérieur, même ça fait quand même plusieurs années que tu es au Canada, pour toi, c'est important de représenter la France quand même, là.
C'est sûr que représenter la France, pour moi, c'est une valeur particulière, c'est une belle opportunité, puis c'est un privilège, il ne faut jamais l'oublier. La France, c'est là où j'ai grandi. Comme je disais, c'est une bonne opportunité. C'est comme des joueurs qui représentent le Canada. C'est une chance inouïe, puis moi, j'ai la chance de profiter de ça.
Antoine, dernière question, puis ça vient d'un auditeur. Comment ça va la guérison? Est-ce qu'on prévoit toujours un retour sur la glace décembre, janvier, dans le pire des cas?
Écoute, je pense que janvier, là, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Je trouve que ça va vraiment bien jusqu'à présent. J'ai recommencé, ça fait un mois que je patine. Je fais d'énormes progrès. Ma prochaine étape, c'est vraiment de pratiquer avec l'équipe. Et puis, généralement, ils veulent qu'on pratique avec l'équipe pendant au moins un mois avant d'avoir le feu vert. Oui, réellement. Donc, je te dirais qu'en ce moment, mon genou, s'il prenait un gros contact, il n'aimerait pas vraiment ça. Mais je suis capable de bien patiner, d'être sur la glace, d'être intense. Et puis, je reste positif. C'est une longue procédure. Mais quand il va être top shape, mon genou, je vais pouvoir repasser à travers un mur, puis il n'y aura pas de problème avec ça.
Antoine Roussel, merci beaucoup.
Merci Marc, et je tiens aussi à féliciter les Sags pour leur super belle victoire d'en fin de semaine contre Rimouski. Gagner là, vraiment là, contre le premier choix overall probablement là, l'année prochaine, puis pouvoir leur mettre dans le dent, je suis bien content.
Excellent, merci.
OK, salut.